Avec la main verte d'Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour à tous.
Alain.
Ce matin, vous nous parlez du Paulownia qui nous offre en ce moment, c'est un arbre, hein, un arbre qui nous offre en ce moment ses plus belles fleurs.
De jolies fleurs d'un bleu difficile à qualifier, certains disent bleu, mauve, d'autres bleu, lilas. Pour ma part, je parlerai de bleu pastel, mais ce qui est sûr est que les fleurs sont bien visibles car de grosses dimensions, disposées en bouquet et surtout parce que les fleurs apparaissent avant les feuilles. Et je rappelle que c'est donc un terme que l'on emploie de temps en temps, on parle du terme protérante.
Et vous nous rappeliez tout à l'heure, hors antenne, qu'il y existe pas mal de ressemblances entre le Paulownia et le Catalpa.
Et oui, c'est vrai qu'il est difficile de distinguer les deux végétaux. Je me rappelle de mon vieux professeur de botanique qui me rappelait cette méthode simple. Dans le mot Catalpa, il y a 3 A. Dans Paulownia, il n'y en a que 2. Les feuilles du Paulownia sont disposées sur la tige 3 par 3 et le Catalpa, 2 par 2, avant que ce soit l'inverse.
Voilà, donc il y a 3 A, donc les 3, c'est pour le Catalpa.
Voilà. Je vous remercie.
Et 2 pour le Paulownia.
On est d'accord.
De quelle région du monde est originaire le Paulownia? Et d'ailleurs, depuis quand est-ce qu'on peut le voir en France?
Le premier Paulownia introduit en Europe est découvert au Japon en 1823, mais la plante est originaire de Chine. Le tout premier Paulownia est planté au Jardin des Plantes de Paris en 1834 et il fleurit pour la première fois le 27 avril 1842. Nous sommes à 27 avril. Il y a donc très exactement 176 ans, de quoi décevoir tous ceux qui pensent que le gros Paulownia planté dans leur jardin date de Louis XV.
Vous dites que le Paulownia a fleuri pour la première fois le 27 avril 1842. Vous êtes tout de même étonnamment précis.
Hein. Eh oui, mais au 19e siècle, la botanique est une science reconnue et enseignée par les plus grands scientifiques. Et la floraison est si attendue que tous les jours, les chercheurs viennent au pied de l'arbre. C'est pourquoi pendant 122 ans, ils ont véritablement observé le végétal. Et je peux même vous dire que ce Paulownia du Jardin des Plantes a été officiellement déclaré mort le 23 juillet 1956.
Une dernière question. Question sur le Paulownia, pourquoi est-ce qu'on l'appelle ainsi?
Alors cet arbre a été découvert au Japon par Philippe Franz von Siebold. Celui-ci est hollandais et il souhaite tout simplement honorer sa souveraine, Anna Paulowna, la fille du tsar Paul Ier. C'est d'ailleurs pour cela, Patricia Martin, que le nom complet de l'arbre est Paulownia imperialis.
Les conseils
Merci
à présent, vos conseils et vos réponses aux questions des auditrices et auditeurs de France Inter. Camille, je ne sais pas si c'est féminin, masculin.
Ça peut être les deux.
K-A-M-Y. Camille a une glycine du Japon.
K-A-M-Y, qui... je dirais plutôt une femme.
Bon, Camille. Si vous le souhaitez.
Peut-être.
Ben, on vérifiera. Camille a une glycine du Japon qui a 10 ans. Depuis 3 ans, elle ne fleurit que très peu et surtout, elle perd ses feuilles. Qu'en pense Alain Baraton?
Alain Baraton pense que quand...
Et Alain Delon, il en pense quoi?
Je pense que quand un végétal à la fin de l'été perd prématurément son feuillage, cela est très souvent lié à des problèmes d'ordre sécheresse. Une plante a besoin d'eau. Pour réduire ses besoins en eau, elle se sépare de ses feuilles. Si la glycine perd ses feuilles à la fin de l'été, mais si elle ne souffre pas de cette situation et repart d'un bon pied, je dirais, l'année suivante, c'est très certainement un problème de sécheresse dans la terre. Alors ça peut être de climat, d'aridité, de canicule, voire même un problème de nappe. Vous savez que les glycines envoient en profondeur les racines, et bien pour peu que la nappe se déplace, la plante peut se retrouver un petit peu en difficulté.
Et la glycine est très forte jusqu'à tordre les bouts de fer sur lesquels elle s'entoure.
C'est incroyable la force qu'elle peut avoir, d'où le conseil supplémentaire, ne plantez jamais de glycine autour d'une terrasse, par exemple en fer forgé, vous risquez fort d'avoir de grosses surprises, et c'est rapide.
Tristan nous parle de son cerisier. L'année dernière, notre cerisier a été attaqué par le puceron noir. Cette année, il n'a fait ni feuilles ni fleurs. Beaucoup de branches semblent mortes. Que faire?
Ah, le puceron noir est une calamité. En particulier, il y en a même un qu'on appelle le puceron noir du cerisier. Vous voyez qu'il connaît bien la plante hôte. Alors, que faire? Pas grand-chose. Deux petites astuces. Alors déjà, il faut savoir pour que la plante en souffre, parce que ce puceron noir va piquer les feuilles, se nourrir de la sève. Ces piqûres peuvent contaminer le cerisier en quantité de virus et bactéries, mais en même temps fatiguent le végétal. De plus, les insectes produisent des déchets comme tous les êtres vivants, sur lequel se développe un miellat qui lui-même attire d'autres champignons, ce genre de choses. Donc tout est lié. Alors que faire? Pas grand-chose. Pourquoi ne pas planter non loin des cerisiers des capucines? Eh oui, la capucine, c'est cette délicieuse petite fleur que j'aime personnellement beaucoup, attire les pucerons noirs. Donc au lieu de s'attaquer au cerisier, elle peut aller s'attaquer à la capucine, les dégâts seront moindres. Et puis il y a une autre chose qu'il faut savoir, les pucerons viennent rarement par hasard, ils sont souvent conduits par les fourmis. Les fourmis utilisent les pucerons un peu comme nous autres, nous utilisons les vaches pour leur lait tout simplement. Et il est vrai que les fourmis encouragent les pucerons à s'installer. Et bien mettez donc des petites bandes de glu pour empêcher les fourmis de grimper dans l'arbre, et vous verrez que les pucerons ne viendront plus.
On peut lâcher aussi des coccinelles, non?
Alors, les coccinelles qui mangent ce qu'on appelle la lutte intégrée, effectivement, qui est très efficace. Il existe quantité de bestioles aujourd'hui qui ont l'avantage, une fois qu'elles ont mangé les bestioles indésirables, qui se mangent entre elles, donc pas de danger pour l'environnement.
Et on peut manger les fleurs de capucine?
Ah bien sûr, oui.
Mais alors, à condition qu'il n'y ait pas de pucerons dessus, évidemment.
Et très honnêtement, les fleurs comestibles sont souvent utiles pour colorer les salades. Honnêtement, le goût, il n'y a pas de quoi non plus tomber à la renverse.
Parfois c'est fort, un peu pimenté, c'est pas mal.
Un petit peu trop, mais comme quoi, il faut peut-être en manger avec raison.
Vanessa va s'installer prochainement dans un cabinet médical à La Réunion, donc dans l'océan Indien. Elle souhaite y mettre des plantes dans ce cabinet. Est-ce que vous pouvez, Alain Baraton, la conseiller, sachant que dans ce cabinet, il n'y aura pas trop de lumière, mais elles seront arrosées, dit-elle, avec amour.
Il faut trois choses pour qu'une plante soit belle. Il faut de l'amour, c'est fait. Il faut de l'eau, c'est fait. Mais il faut de la lumière. Et là, ce n'est pas fait.
C'est la photosynthèse.
Voilà, tout à fait. Et si on met des lumières artificielles, je ne suis pas sûr que cela convienne à un cabinet médical. Donc non, malheureusement, s'il n'y a pas de lumière naturelle, oubliez. Mais il existe aussi, ça va peut-être vous surprendre, mais aujourd'hui des fleurs artificielles qui sont vraiment très très belles et qui peuvent parfois, dans certains cas, éviter d'avoir des fleurs naturelles. Oui, je parle uniquement quand il n'y a pas moyen de faire autrement, bien évidemment. Ce n'est pas moi qui vais encourager le végétal en plastique, vous en doutez.
J'allais vous poser la question.
Non, mais dans certains cas,
mais c'est vrai que maintenant, il y a des jolies choses.
Il y en a parfois, il faut même toucher pour se rendre compte qu'elles sont fausses.
Alain Baraton, on termine avec un dernier conseil.
C'est comme vos cheveux, en quelque sorte.
Un dernier conseil pour le week-end.
Plantes sauvages comestibles, vous allez vous promener dans la nature, vous pouvez manger les plantes sauvages comestibles. Encore faut-il les reconnaître. Eh bien, c'est fait avec cet ouvrage, 40 plantes communes, 80 recettes. Il est signé Isabelle Huneau et il est publié chez Ulmer.
Merci Alain Baraton et à demain.
À demain.